Bonjour Catherine Dutu.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Les secours ont suspendu hier soir les recherches autour du pont de Baltimore qui s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi sur la côte est des États-Unis.
Après avoir été percuté par un porte-conteneur, vous avez peut-être vu d'ailleurs les images dignes d'un film de catastrophe, elles ont fait le tour du monde. Le cargo est toujours coincé sous le pont autoroutier Francis Scott Key dans le port stratégique de Baltimore. Il a fait tomber ce pont en moins de 40 secondes. Précise le Washington Post et la BBC, qui proposent d'ailleurs vidéos, photos, images satellites de l'accident, avec couverture en direct même des conséquences pour le Washington Post et le New York Times. Les 6 personnes portées disparues travaillaient à réparer des nids de poules, rien à voir avec un quelconque problème structurel du pont, précise le Baltimore Banner, journal local. Des ouvriers du bâtiment du Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Mexique, âgés entre 30 et 40 ans, sont aujourd'hui présents. Résumés morts, ils étaient venus à Baltimore pour trouver une vie meilleure pour eux et leur famille. Restés dans leur pays d'origine, se désole le Baltimore Banner. Le quotidien, comme les autorités du Maryland, salue par ailleurs la réactivité des 22 membres du cargo qui a lancé un appel de détresse permettant aux autorités d'arrêter le trafic routier. Le Dali, le nom de ce cargo qui bat pavillon singapourien, a été affrété par Maersk, le géant du transport maritime basé au Danemark, précise le New York Times. En 2016, un rapport avait fait état de dommages sur la coque du navire. Cette année-là, le Dali avait heurté un mur de pierre en quittant le port d'Anvers en juin. Une autre inspection avait révélé des problèmes de propulsion et de machines auxiliaires, révèle le Baltimore Banner. Mais le navire a été inspecté pour la dernière fois en septembre dernier par les gardes-côtes américains qui n'ont relevé aucune anomalie, souligne le journal singapourien The Straits Times. Mais voilà ce qui se passe quand un cargo moderne de 95 000 tonnes rencontre une infrastructure vieillissante aux États-Unis. C'est le titre du site d'information américain Business Insider, car les experts le confirment, le pont achevé à la fin des années 70 n'a pas été conçu pour d'immenses cargos tels que le Dali, 289 mètres. Il transporte au moins 3000 conteneurs, indique la BBC. Lorsqu'il a réalisé son problème de propulsion, sa perte de puissance, c'était déjà bien trop tard. C'est comme si les freins de votre voiture tombait en panne, explique le Baltimore Banner.
This is a unique circumstance. I do not know of a bridge that has been constructed to withstand a direct impact from a vessel of this size. What I will say is,
ce sont des circonstances uniques et je ne connais pas de pont capable de résister à un cargo de cette taille, a déclaré hier le ministre des Transports Pete Buttigieg depuis Baltimore dans une interview relayée notamment par Forbes et NBC News. Il alerte sur les conséquences durables de l'effondrement de ce pont clé pour Baltimore et la côte est des États-Unis, un emblème, dit-il, une cathédrale pour les habitants de Baltimore aussi. Le pont autoroutier Francis Scott Key voit passer plus de 30 000 véhicules par jour en temps normal. Les commuters, ces personnes qui font le déplacement travail-domicile.
Et puis le port de Baltimore, Catherine, joue également un rôle important dans l'expédition de véhicules.
750 000 voitures et camions y ont transité l'an dernier, explique le New York Times et le Wall Street Journal. Ce port se classe au premier rang aux États-Unis pour le transit de véhicules. Il est proche du Midwest où sont implantées les usines automobiles. 15 000 emplois dépendent de ce port de Baltimore. Et le New York Times affirme que General Motors, Ford et Stellantis, qui possèdent Chrysler, Dodge, Jeep et Ram, prévoient désormais de détourner leurs importations et exportations de véhicules vers d'autres ports de la côte Est, notamment le port de Brunswick en Géorgie ou bien le port de Charleston en Caroline du Sud. Et puis, à Singapour, le journal The Straits Times explique que le propriétaire du navire, qui bat, je le rappelle, pavillon de Singapour, pourrait faire face à des centaines de millions de dollars de dommages et intérêts de la part du propriétaire du pont ou même de toute personne qui a subi des blessures corporelles ou une détresse émotionnelle. Mais il pourrait tenter de réduire sa responsabilité en vertu d'une obscure loi du 19e siècle invoquée par le propriétaire du Titanic afin de limiter son indemnisation pour le naufrage de 1912. Il s'agirait de limiter donc la responsabilité de l'armateur à la valeur du navire après l'accident, plus les revenus qu'il a perçus en transportant le fret à bord, indique également Bloomberg et The Business Standard. Maersk ne semble pas en danger car il n'y avait pas d'équipage recruté directement à bord du Dali. Nouvelle complication en tout cas dans le trafic maritime après les attaques des Houthis en mer Rouge, les rebelles yéménites soutenus par l'Iran qui déstabilisent la région depuis les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël.
Et puis à propos du Proche-Orient, justement, les États-Unis ont annoncé hier, Catherine, qu'ils continueraient à parachuter de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza malgré l'appel du Hamas à cesser ses opérations.
Et ce, après la mort de 18 Palestiniens, dont 12 noyés en mer dans le nord de la bande de Gaza. Un morceau de papier récupéré lors du largage aérien indiquait en arabe que l'aide provenait des États-Unis, rapporte le New York Times et le Guardian. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes partis récupérer cette aide humanitaire. Nous étions même surpris de voir qu'un avion avait largué des colis dans la mer, explique un Gazaoui dans une vidéo relayée notamment par Reuters et le New York Times. Les gens se sont alors précipités, ils ont nagé pour récupérer cette aide. Certains se sont noyés et des cadavres ont aussi été repêchés. Un autre Palestinien demande l'ouverture officielle des postes frontières, car il n'est pas normal, dit-il, d'obtenir de l'aide de cette manière humiliante. Malgré le vote lundi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, vous en parliez d'ailleurs dans les enjeux un peu avant le journal de 7h, Guillaume, la guerre fait toujours rage dans le territoire palestinien assiégé par Israël après les attaques terroristes du 7 octobre. Gaza, menacée de famine, rappelle la BBC, le Times of Israel et Al Jazeera. L'aide très insuffisante face aux besoins de la population de 2,5 millions d'habitants arrive principalement depuis l'Égypte via Rafah, mais ne parvient que très difficilement dans le nord du territoire. Les parachutages sont l'un des moyens de fournir de l'aide aux Palestiniens. Nous continuerons de le faire, a déclaré la Maison-Blanche hier. La chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, en visite en Israël, a elle plaidé pour étendre massivement les livraisons de vivres à Gaza en facilitant le passage des camions, rapporte la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Au sol, les habitants observent, eux, les parachutages et ils se précipitent quand ils atterrissent, se bousculant et se battant même entre eux.